Solidarité avec les prisonniers. Solidarité avec les prisonniers. Solidarité avec les prisonniers.
Bienvenue à cette vigile en solidarité avec toutes les prisonnières et tous les prisonniers. Et on est ici, entre autres, pour vous lire ce texte qui a été écrit par une camarade.
Alors, tout unis contre l'austérité. En mettant la hache dans les services publics, comme il le fait, le gouvernement Couillard fait un pas de plus dans la mise sur pied du projet capitaliste néolibéral. Celui-ci vise à précariser les emplois salariés et à privatiser les services essentiels tels la santé et l'éducation en les soumettant au marché et en reléguant leur poids aux familles. Les mesures d'austérité s'inscrivent dans une restructuration de l'économie capitaliste au niveau mondial visant à augmenter les taux de profit de la classe possédante et des investisseurs RES, féminin ou masculin. Ce faisant, ils s'éloignent du modèle de développement du capitalisme québécois qui avait utilisé l'État au tournant des années 60 comme outil pour répondre aux nouveaux besoins de l'économie capitaliste en termes de formation de la main-d'œuvre, d'assurance pour la population, santé et revenus, et de création d'une demande de consommation de masse. Il faut souligner que ces deux modèles de développement se basent sur l'appropriation des terres autochtones et sur l'exploitation intensive par les capitaux privés, la bourgeoisie subventionnée et les sociétés d'État telles qu'Hydro-Québec. Couillard impose l'austérité, mais il n'hésite pas par contre à sortir de ses coffres 1 milliard pour voler au secours de Bombardier, une entreprise privée qui serait, entre guillemets, en difficulté. On voit bien où sont les vraies priorités. L'État condamne les travailleurs-travailleuses à des charges de travail plus lourdes pour des salaires moindres et coupe des services de base pour lesquels se sont battues les générations précédentes. Si nous ne faisons rien face à la situation, un appauvrissement général de la population est à prévoir. C'est pourquoi une mobilisation de celle-ci dans les proportions les plus grandes possibles était visée afin de faire pression sur le gouvernement et ainsi espérer un recul de sa part. L'entêtement des libéraux à poursuivre dans la voie de l'austérité et de la privatisation doit se heurter à la colère et à l'organisation des classes précaires et précarisées. Allons plus avant dans l'organisation de la lutte contre le gouvernement Couillard et ses projets d'austérité, mobilisant toutes les couches de la société qui n'en peuvent plus de voir leur vie s'écrouler sous leurs yeux. Grève sociale!
Le texte s'appelle « 2-year anniversary of migrant strike ». On September 17, 2013, 191 immigration detainees held in the Central East Correctional Center in Lindsay, Ontario, began an on-air strike calling for an end to their indefinite detention. This past week marked the 2-year anniversary of beginning of the strike. As the Canadian government continues to detain thousands without trial or charge in prisons across the country, detainees in Lindsay continue to organize and resist. Today we are releasing some new messages from detainees recorded over the trap line to mark the anniversary of the struggle. So here are two quotes from a detainee. I'm on immigration, I'm going on 3 years now, and right now it's been 2 years since we did the hunger strike. I'm a detainee at Lindsay Correctional Center. I'm on immigration. Okay, c'est une répétition de la même ligne. Nothing has changed. Everything is the same. I'm a Somalian nationality, and Somalia is not issuing me no travel documents, and Canada is using their own travel documents to take me back to my country, which is not right. We're here and we're trying to stay strong, but want you to know that we are away from our family and our loved ones, and hopefully sometime we could be with them. Thank you guys for keeping up the good fight for us, and we do appreciate it. Thanks y'all. Alpha Shigbo was born in the Toronto Immigration Holding Center on August 25th, 2013. Alpha has not seen a single day of freedom. Tomorrow, he celebrated his second birthday in detention last summer. His mother, Gloria Anawas, has been imprisoned in immigration jails in Ontario since February 2013 without charge or trial. Canada cannot deport her, but will not release her. Detained migrants Their families and supporters have formed a campaign to end indefinite detention and are making four simple, pragmatic demands. First, freedom for the wrongly jailed. Release all migrant detainees who have been held for longer than 90 days. Two, end arbitrary and indefinite detention. If removal cannot happen within 90 days, immigration detainees must be released. Limits on detention periods are recommended by the United Nations and are the law in the United States and the European Union. Third, no maximum security holds. Immigration detainees should not be held in maximum security provincial jails. Must have access to basic services and be close to family members. And the fourth demand, overhaul the adjudication process. Give migrants fair and full access to judicial review, legal aid, bail programs, and pro bono representation.
C'est pas un texte que je vais lire, c'est juste pour mentionner une situation particulièrement horrible. Parmi beaucoup, on sait de situations très horribles. C'est la situation très aiguë que vivent des femmes, particulièrement des femmes queer, aux prisons Grand Valley en Ontario. C'est la même prison où l'adolescent Ashley Smith est décédé en 2007, je crois. Elle s'est suicidée devant des caméras que des screws regardaient. Et elle est morte de même. Ils auraient pu le prévenir, mais ils n'ont rien foutu parce qu'ils s'en foutaient. Et suite à ça, le directeur du prison a été renvoyé. Et cette prison-là n'a pas un directeur. Ce qui veut dire que les screws peuvent faire pas mal qu'est-ce qu'ils veulent. Et depuis un bout de temps, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'intimidation et d'harcèlement de femmes qui ont des relations intimes entre elles, des femmes queer. C'est des menaces envers ces femmes-là. Et c'est l'invention de bris de règlement pour donner des contraventions, pour faire des choses qui peuvent faire que ces femmes soient envoyées en isolement à cause de ces screws homophobes, lesbophobes. Et une fois en isolement, ces femmes n'ont pas accès aux avocats, n'ont pas accès au téléphone. Donc, il y a quelques semaines, il y a eu un appel pour que du monde appelle cette prison-là pour les faire chier. Et du monde ont fait ceci, ça fait une petite différence. Au moins maintenant, le prison a dit que des femmes pouvaient former un groupe pour femmes queer en dedans. Mais l'harcèlement continue et l'intimidation continue, donc on demande toujours au monde d'appeler ces prisons. C'est vraiment une situation fuckée où des screws ne sont pas redevables, même en théorie, envers personne. Et donc, c'est une situation très intense.
Mais dans le fond, je vais poursuivre le même texte qui a été écrit en partie par une détenue à Tanguay. Alors, les coupures budgétaires en milieu carcéral, les détenus n'en peuvent plus. Faisant partie des couches les plus marginalisées et exploitées de la société dite libre, nous, les détenus provinciaux, n'avons plus à éponger personnellement les coupures budgétaires imposées aux institutions carcérales. Celles-ci qui, évidemment, se font un plaisir à nous les faire subir. En tant que détenus, notre précarité n'est plus aiguë due à notre captivité et à l'état de dépendance dans lequel nous sommes maintenus. Cependant, nous savons que nos conditions sont liées directement au capitalisme qui exploitent les classes laborieuses composées majoritairement au niveau mondial de personnes de couleur, de personnes migrantes ou déplacées, d'autochtones. Parmi ces groupes, les femmes sont bien souvent plus précaires. Dans ce contexte, la prison n'est qu'un moyen de gestion des populations que le capitalisme a qualifié d'inutile. À Tanguay, la prison pour femmes de Montréal, nos conditions de vie se sont dégradées à un rythme effréné. Au cours des 5 dernières années, nous avons faim. Les rations et la qualité de la nourriture causent la malnutrition chez les personnes incapables de se payer une cantine pour compléter leur repas. Nous sommes malades. Les établissements tombent en ruine. Les murs sont rongés par les moisissures. Dans certains secteurs, des reflux d'égouts sortent de la tuyauterie. La vermine pullule dans la cuisine, dans les cellules. Pour couronner le tout, les produits de nettoyage sont dilués à un point où ils perdent leurs propriétés nettoyantes. Ils sont rationnés de façon telle qu'il n'est pas possible de nettoyer le secteur convenablement. L'accès aux services médicaux est réduit au minimum. Les retards des transferts de prescriptions mettent quotidiennement en danger la vie de nombreuses détenues sous le regard indifférent des agents correctionnels et agentes correctionnelles. Celles qui présentent des symptômes de manque physique, même les plus graves, sont laissées aux soins des autres détenus qui se transforment alors en garde malade, et ce sans aucune formation, sans matériel médical ou sans produit de nettoyage encore, dans un environnement déjà insalubre. Sans compter, les personnes qui sont dans cet état sont fréquemment porteuses de maladies transmissibles comme le VIH ou l'hépatite B. Les femmes enceintes n'ont pratiquement aucun suivi médical, à part une seule échographie au cours de la grossesse, pas plus qu'une alimentation convenable. Les fausses couches sont même plus considérées comme une urgence. Les femmes qui en font ne reçoivent aucune aide médicale. On nous traite de façon inhumaine. Le durcissement des peines, par exemple, le retrait de la possibilité de sortir au 1/6e, ou les conditions de libération, a entraîné un problème de surpopulation qui ne fait qu'empirer la situation. Il faut passer environ un mois dans la salle commune avant de pouvoir partager une cellule juste assez grande pour y entasser deux matelas, dont un sur le minuscule espace sur le plancher. On vit les unes par-dessus les autres, les tensions sont à leur maximum. Il va sans dire que lorsqu'on parle des coupures et de dégradation des conditions de vie, nous savons de quoi il est question. Est-ce que d'avoir commis quelques infractions au code criminel justifie un tel traitement? Surtout sachant que la plupart des personnes incarcérées sont pour des crimes liés à leurs conditions de vie. Nous ne sommes pas sans avoir remarqué un net changement dans les conditions de travail des agents correctionnels et des agentes correctionnelles. Ce changement a des impacts négatifs directs sur notre traitement. Si la situation continue sur cette pente descendante, seul l'avenir nous révélera jusqu'où ira le ras-le-bol des détenus. Ce que nous voulons. Nous désirons grossir les rangs de la mobilisation déjà en cours dans l'espoir de lui donner un maximum de poids et de forcer un changement de direction quant aux politiques antisociales mises en vigueur par le gouvernement. Nous voulons qu'on reconnaisse nos revendications qui relèvent d'un simple respect de la dignité humaine. De la nourriture qui subvienne à nos besoins nutritionnels de base, des soins médicaux adéquats et accessibles, un suivi particulier pour les femmes enceintes, une prise en charge de cas lourds de sevrage, des produits d'hygiène fournis, plus de programmes sociaux, plus de cours qui débouchent sur des emplois, l'accès à des thérapies, de l'aide pour devenir des personnes fonctionnelles. Voilà ce que la majorité des détenus veulent, mais ne peuvent atteindre, en partie à cause du manque de ressources offertes. Alors, c'est pas mal ça. Dans le fond, la vigile est organisée par un groupe qui s'appelle Toute détention est politique. On vous invite à suivre nos différentes publications, puis à vous impliquer si jamais vous le désirez. Alors, voilà. Thank you.